l'attention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
La tête au carré.
La structure des objets mathématiques détermine celle des objets naturels.
Oui, et l'inverse.
La tête au carré. Carré. Denis Chessou,
le magazine scientifique de France Inter.
Préparation du choc en cours.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette tête au carré du mardi avec aujourd'hui Dimitri Gronoff et Fabien Laléouze à la technique. Je n'oublierai pas Jean-Christophe Epinaza, Séverine Bouvard, notre assistante, et Marie Guérin qui réalise l'émission. Alors, je n'ai pas le temps, je prends du bon temps, je suis pressé, overbooké, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ah non, excusez-moi, je fais un marathon de 42 km en 3h15. Donc voilà, peut-être un peu résumé notre relation au temps et je ne vous parle pas des 35 heures. Petit voyage aujourd'hui à travers le temps, oui, mais le nôtre, intime, interne, invisible, celui en fait qui est réglé par nos petites horloges, nous appelons ça la chronobiologie. Et remercions tout de suite Monsieur Chronos, qui exerçait donc la douce et honorable profession de titan. Et nous lui devons donc les mots de chronomètre, chronologie, chronobiologie. Et nous en parlons avec vous, Claire Lecomte. Bonjour Claire Lecomte.
Bonjour Denis Chessou.
Vous êtes professeur émérite de psychologie, vous êtes membre du laboratoire de psychologie, interaction, temps, émotion, cognition. Vous êtes aussi enseignante, vous êtes à Lille. Qu'est-ce que vous faites à Lille ?
J'enseigne, ouais. J'enseigne de la psychologie, d'accord. Donc aux futurs psychologues, scolaires par exemple.
Et alors comment on fait pour passer en fait des mathématiques appliquées au sens social, à la psychologie ?
Alors c'est peut-être pas tellement des mathématiques appliquées que de l'enseignement à la psychologie,
ouais.
Parce que j'ai effectivement fait des mathématiques comme étude première, mais j'ai surtout enseigné les mathématiques. Et donc c'est cette découverte de l'enseignement des mathématiques à des élèves pas forcément attirés par les mathématiques et cette envie justement de trouver les moyens les meilleurs de leur faire passer cette envie d'apprendre qui m'a amenée à faire de la psychologie.
D'accord. Mais la chronobiologie, après, comment ça s'est...
Alors, la chronobiologie, c'est par le biais des premiers travaux de recherche en psychologie que j'ai menés. Et ces travaux qui me faisaient découvrir le fait que finalement, il est nécessaire de prendre en considération le temps dans toutes les mesures que l'on fait. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose de faire passer ne serait-ce qu'un test psychologique à 8 heures le matin que de le faire passer à 14 heures. Donc c'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça que cet intérêt est arrivé.
On rejoint d'ailleurs aussi les médicaments. Hein,
absolument.
Les prises de médicaments et le temps aussi.
Tout à fait. C'est vraiment quelque chose après que j'ai découvert. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est tout à fait ça. Et puis il se fait que dans le laboratoire où j'étais à l'époque de ma thèse, est arrivé un collègue qui était chercheur au CNRS et qui travaillait depuis pas mal d'années maintenant sur le rôle du sommeil paradoxal dans les activités cognitives et donc a installé un laboratoire de sommeil au sein de notre UFR de psychologie qui était tout à fait nouveau dans une université de lettres et sciences humaines, surtout à l'époque. Et comme j'étais inscrite dans ce laboratoire, je me suis intéressée à ces travaux et finalement j'ai fait ma thèse sur le développement des enfants prématurés.
Alors on va s'intéresser donc à cette chronobiologie tout au long de cette émission, mais je vous propose maintenant, c'est le moment de notre revue de presse.
Revue de presse.
La revue de presse de S des sciences.
L'univers en technicolor. Alors ce n'est pas le titre d'une rétrospective du cinéma de grand-papa, à des années-lumière, des écrans plats et des projections numériques en 3D. Non, l'histoire que nous raconte le New York Times se passe au laboratoire Fermilab de Chicago. Il était une fois une anomalie dans les données récoltées lors des milliers de collisions protons-antiprotons réalisées dans le Tevatron, le grand accélérateur de particules du Fermilab. Et alors, une anomalie qui pourrait bien révéler l'existence d'une nouvelle particule et d'une cinquième force de l'univers, jusque-là tout à fait hypothétique. Une force baptisée Technicolor qui viendrait s'ajouter au célèbre quatuor des forces fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme et les deux forces nucléaires. Vous avez gagné. La découverte pourrait révolutionner le modèle de l'univers en vigueur depuis plusieurs décennies et comme l'explique Giovanni Punzi, qui est porte-parole de l'équipe internationale des chercheurs sur l'expérience, ce serait si important que cela nous ferait presque peur. Pasteur. Alors, reste à confirmer l'essai. À quelques mois de la fermeture définitive du Tevatron pour cause de coupure de crédit, les chercheurs du Fermilab ont encore dans leur tiroir plusieurs milliers de collisions à analyser. Et quelque chose me dit qu'ils ne seraient pas mécontents d'emporter le morceau avant de passer la main à leurs collègues et néanmoins concurrents du CERN près de Genève et de leur grand collisionneur de Hadron, le fameux LHC. Après l'infiniment petit, le moyennement petit, mais très pénible, Pediculus humanus, le pouls humain. Oui, un concentré de nuisance avec son millimètre au garrot et sa reproduction débridée. Donc une charmante petite bestiole qui envahit chaque année vos chères têtes brunes, blondes et sur les bancs de l'école et qui vient régulièrement les démanger au beau milieu de la récitation de l'imparfait du subjonctif. D'après une dépêche publiée dans le quotidien belge Le Soir, les poux infestaient déjà l'épiderme des tyrannosaures, de leurs cousins à plumes, les ancêtres des oiseaux. Selon Kevin Johnson de l'université de l'Illinois aux États-Unis, les poux d'oiseaux et de mammifères ont commencé à se diversifier bien avant la fin du Crétacé, il y a donc 65 millions d'années. Or, qui dit présence d'un parasite dit aussi celle de son hôte, l'espèce qui lui fournit le gîte, le couvert. Et en remontant la piste des poux, eh bien Johnson espère prouver que de nombreux groupes d'oiseaux et de mammifères peuplaient notre planète bien avant la cinquième grande extinction des espèces et la disparition des dinosaures. Alors l'histoire ne dit pas si les poux des mammifères et des oiseaux survivront à la sixième grande extinction, celle à laquelle nous œuvrons allègrement aujourd'hui, à grands coups de débroussailleuses, tronçonneuses, pelleteuses, ratiboiseuses et engins en tout genre qui réduisent à peau de chagrin les derniers habitants d'un mammifère sur 4 et d'un oiseau sur 8. Aucun souci en revanche pour Pediculus humanus, avec les 7 milliards d'êtres humains qu'on nous promet pour la fin de l'année. Notre pouls à nous a un bel avenir devant lui. Et enfin, 80 ans après, Paul Valéry, qui disait « Notre monde fini n'en finit pas de rétrécir », eh bien l'hebdomadaire New Scientist jette un pavé dans la mare des énergies renouvelables, avec un article aux conclusions surprenantes et au titre un brin provocateur, je cite « Au bout du compte, les énergies du vent et des vagues ne sont pas renouvelables. » Alors le trublion s'appelle Axel Kledon, chercheur à l'Institut Max Planck de biochimie d'Iéna en Allemagne. Et Kledon nous calcule le bilan thermodynamique de la machine Terre, à savoir combien d'énergie nous recevons du Soleil, combien nous en renvoyons dans l'espace et ce que nous faisons de la différence entre les deux. Alors le problème, comme l'expliquait déjà Sadi Carnot en 1824, c'est que la plus belle des machines thermiques ne peut pas convertir en mouvement toute la chaleur qu'elle reçoit, moteur à explosion de nos voitures et de nos camions, réacteurs de nos avions, turbines à vapeur de nos centrales électriques. Plus de la moitié de l'énergie dépensée par l'humanité pour se déplacer d'un point A à un point B ne fait que réchauffer le reste de la planète. Et la machine terrestre ne fait pas mieux. Donc nous recevons du soleil en une heure l'équivalent de notre consommation annuelle, mais seulement une infime portion de cette énergie est transformée en vent, vague ou courant marin, donc capable de faire tourner nos éoliennes, hydroliennes et autres vagoliennes. Bref, la fringale d'énergie de l'espèce humaine pourrait bien finir par mettre à genoux la machine climatique. C'est ce que nous dit Axel Kledon. Voilà, donc c'est la fin de cette petite revue de presse et nous allons débuter aussi en musique. Nous sommes toujours dans la chronobiologie, vous l'avez bien compris, avec Thomas Fersen.
La tête, au carré.
Apprenant que les gendarmes recherchaient un vagabond, une brave dame m'a caché sous son jupon. Quelquefois, je l'admets, j'ai couché sous un pont, mais je n'avais encore jamais logé sous un jupon. Comme sous ce jupon, il faisait doux, il faisait bon. Comme sous ce jupon, il faisait noir comme du charbon. Comme il faisait nuit, je me suis endormi comme si j'étais dans un bon lit. Ma nuit s'est conclue par un réveil au clair de lune, en ne sachant plus dans quel pays, dans quelle commune. J'ai couché, je l'admets, parfois au clair de lune, mais je ne l'avais encore jamais vu de ce volume. Je suis dans le néant, je ne reconnais pas la chambre. ce parfum d'océan mêlé à une pointe d'ambre. J'ai dormi, je l'admets, parfois dans un fossé. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me déchausser. Ai-je fait relâche chez les Bédouins en Arabie? Ai-je fait relâche chez les Apaches sous un tipi? Parfois j'ai campé, j'ai dormi sur des canapés. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me dessaper. Dans ce campement de fortune, j'ai posé un collet, j'ai vu un lapin dans les dunes. Mes autres résidences ne valaient pas un radis. Et de toute évidence, ici je suis au paradis.
Parfois au clair de lune, c'était Thomas Fersen sur France Inter dans La Tête au Carré. Oui, clair de lune, là aussi, changement de rythme, la nuit, le jour. Nous parlons de chronobiologie avec vous, Claire Lecomte. Je voyais qu'un ancien collègue, c'était quand même 325 avant Jésus-Christ, qui s'appelait Androsten, j'ai pas été présenté, décrit l'épanouissement des plantes au fil du jour et de leur reploiement à la tombée de la nuit. En fait, pendant très longtemps, ces études sur les rythmes biologiques, ça concernait la biologie végétale.
Absolument. Ça, pour des raisons de facilité aussi, j'ai envie de dire. De facilité en termes d'observation, puisque c'était de l'observation. Hein. Puisque, effectivement, les tout premiers travaux, aussi anciens que ceux-là, mais même plus proches de nous, comme ceux du 18e siècle, portaient sur les plantes, sur la base d'observations que faisaient des biologistes, d'événements rythmés. Et c'est vrai que ça a été quand même une grande surprise pour quelqu'un comme de Meyran, par exemple, de constater que les plantes qu'il avait mises dans un local très homogène du point de vue de l'environnement, c'est-à-dire dans l'obscurité totale, sans changement de température, sans changement de taux d'humidité, etc. Donc vraiment un environnement particulièrement homogène, ces plantes ont continué à fonctionner de manière rythmée.
Ce qui veut dire qu'il s'ouvre, se sans ferme, perturbation,
sans apport, voilà, de l'environnement. Parce que jusqu'alors, on pensait que ces modifications observées dans la plante étaient liées aux phénomènes jour-nuit, le nyctémère, la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. Donc tous ces phénomènes naturels ont d'ailleurs un effet sur les rythmes observés. Mais là, pour la première fois, il observait des rythmes indépendants des synchroniseurs extérieurs. Donc c'était bien des rythmes endogènes. Donc là, ça a été vraiment le démarrage de nouveaux travaux qui ont mené d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Viret, qui était médecin au début du 19e siècle, à s'interroger sur ces rythmes et à poser pour la première fois la terminologie « horloge du vivant ». Donc à se demander s'il existait bien des horloges endogènes à tout être vivant. Il était médecin et il avait pu observer des variations. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est une thèse de 1814. Hein, donc, ça n'est quand même pas d'hier. Une thèse dans laquelle il montrait que les médicaments n'avaient pas le même effet selon le moment de prise de ce médicament. Et ça, c'était vraiment absolument nouveau. Quoi. Personne n'imaginait ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas encore persuadé de cette réalité, il faut le savoir. Ce n'est pas quelque chose qui forcément est encore appliqué dans toutes les délivrances de médicaments qui sont données aux patients. Et il avait aussi démontré que les maladies elles-mêmes présentaient des variations circadiennes avec des pics de température à différents moments, régulièrement. Et il a confirmé cette idée d'existence d'horloge interne.
Alors, donc, il y a eu deux mots au passage. Vous avez dit nyctémère, c'est pas nyctalope, mais c'est tout à l'heure.
Le nyctémère,
voilà,
pardon.
Nyctémère, c'était, oui, c'est quoi?
Alors, le nyctémère, c'est le changement jour-nuit, le changement luminosité-nuit, qui est de 24 heures, puisque c'est social. C'est nyctémère, c'est social, c'est les 24 heures, changement jour-nuit. Qui est évidemment proche du circadien, mais le circadien a trait à l'horloge interne, alors que le nyctémère et le phénomène exogène, extérieur, de l'environnement, qui fait qu'on passe du jour à la nuit et de la nuit au jour.
Alors quand on parle donc des rythmes circadiens, j'ai relevé du latin circa, presque, et
à
dies,
peu près le jour,
à peu près effectivement le jour. Ouais. Ça, c'est une période qui est comprise entre combien de temps?
Alors on estime que la période des deux événements qui se reproduisent à l'identique selon cette rythmicité-là va de 20 heures à 28 heures. C'est-à-dire qu'il y a une variabilité interindividuelle telle que certains sujets, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ont une horloge circadienne qui est de 20 heures, alors que d'autres ont une horloge circadienne de 28 heures, ce qui est assez énorme. Mm-hmm. Sur un rythme de 24 heures, 8 heures d'écart, c'est important. Alors bien évidemment, ce sont des petits pourcentages qui sont aux deux pôles, mais globalement, 24 heures est vraiment le rythme social imposé à tous. Hein. Ça n'est pas forcément celui de notre propre horloge.
D'accord. Donc, il y a le rythme social d'un côté et puis la réalité de l'autre. Et évidemment que ces travaux ont été complètement étayés par le travail qu'avait effectué Michel Siffre. Alors, souvenez-vous, nous sommes en septembre 1962. Première expérience d'isolement vraiment hors du temps. Il doit y passer à peu près 2 mois, me semble-t-il. Et là, on est à la sortie du gouffre en 1962. On est dans les Alpes italiennes. Et il est content, Michel Siffre.
Ah, c'est bon.
Michel Siffre dirige en ce moment une opération étonnante.
Est-ce que vous avez une sensation de palpitation, de cœur qui bat vite?
Non, pas tellement.
Irrégulier?
Ah, je sais pas.
Avec bouffée irrégulière, avec un à-coup?
Je ne sens pas, j'ai trop de choses là.
Est-ce que vous avez besoin d'inspirer profondément?
Ah oui, ça oui.
Extrémité froide, très froide au membre supérieur.
J'ai soif encore, hein.
Vous n'avez pas de nausées, pas de vertiges?
Ah
pas
si, j'en ai eu, en montant, des nausées sans arrêt dans le puits de 30.
Oui. Tachyarythmie 120, 130. Calme, je crois qu'on a intérêt à le mettre.
Les pieds, j'ai froid aux pieds.
La tête
pied,
plus basse, il a la tête trop haute.
Allez-y aux pieds,
Est-ce pour les yeux, ça marche?
Ça va, pour les yeux, ça marche.
On dégage un peu.
Ça me fait pas mal pour les yeux.
Voilà.
Faut imaginer le garçon, hein, il ressort, voilà, on lui saute dessus avec un micro, il a vu personne, il a aucun contact, il pouvait même pas écouter France Inter au fond de sa grotte. Donc là, il a repris son souffle, hein, voilà, parce que là ça fait un peu souffrir quand on entend comme ça. Et 2 ans après, en 64, eh bien, écoutez ces propos qui sont donc tout à fait éclairants.
Vous savez que dans la vie moderne, nous avons une vie absolument surexcitée, une vie qui ne maintient plus justement cet équilibre naturel qu'il y avait avant entre l'activité et le sommeil. L'équilibre est rompu et provoque une fatigue extraordinaire. On ne dort plus assez. On n'arrive plus à créer un rythme de vie qui soit compatible avec l'exigence de notre corps. En m'isolant sous terre, j'ai pu isoler ce corps justement. J'ai pu isoler le rythme corporel de l'homme. Et nous avons prouvé que lorsque le corps vit naturellement, il y a un équilibre qui se fait entre le nombre d'heures d'activité et le nombre d'heures de sommeil. Ainsi, plus vous restez longtemps éveillé, moins vous devez dormir. Et plus vous dormez, moins vous devez rester de temps éveillé. Et si vous ne réalisez pas ça, justement cet équilibre-là, vous vous fatiguez physiologiquement.
Et vous vieillissez.
On a fait des bons en avant là aussi, Claire Decomte. Je vous écoutais donc Michel Siffre, grâce à ses expériences.
On a fait des bons en avant. Alors ce qu'il faut peut-être rappeler quand même, parce que ça me paraît toujours important de rendre à César ce qui lui revient. Quand Michel Siffre a fait ce travail, il était étudiant à l'époque, hein, c'était vraiment, il était absolument tout jeune. Et c'est vrai qu'on dit que c'est la première expérience hors du temps, dans la mesure où pour la première fois, quelqu'un s'isolait temporellement sans qu'il n'ait connaissance de l'existence de l'horloge biologique. Puisqu'à l'époque où il l'a fait, ça n'était pas encore quelque chose qui était scientifiquement avéré. Et en fait, ce sont les deux chercheurs, Alain Reinberg et Franz Hallberg, qui, ayant connaissance de cette expérience, lui ont proposé de récupérer les données qu'il avait recueillies au fond de sa grotte, parce qu'il avait du temps quand même pour faire des petites choses, hein, puisqu'il n'avait rien d'autre à faire que de recueillir ces données.
Mais il avait un stage de 2 mois, il était étudiant, voilà. Il a trouvé un stage de 2 mois, il est allé au fond de la grotte.
Hein. Absolument, mais lui n'a d'ailleurs pas perçu, je crois bien qu'il s'est trompé de 3 semaines, hein, par rapport au temps vécu pour lui, par rapport au temps réel passé, il y avait une erreur, me semble-t-il, de près de 3 semaines. Hein. Donc, il avait énormément rallongé ses rythmes circadiens, finalement, au total. Hein, puisque... Mais ce sont donc Alain Reinberg et Franz Hallberg qui ont récupéré les données qu'il avait pour la première fois recueillies et qui les ont analysées. C'est à partir de cette première analyse qu'ils ont pu mettre en évidence cette régularité dont parle Siffre 2 ans plus tard. Le fait qu'il y a une espèce de compensation entre la veille et le sommeil qui se fait, etc. Donc ça a vraiment été le premier travail important qui a permis d'ailleurs que la chronobiologie devienne une science reconnue par la biologie.
Alors parlez-nous maintenant, donc Claire Lecomte, s'il vous plaît, de l'horloge biologique. Vous avez employé donc ce mot plusieurs fois. Donc qu'en est-il? Comment ça fonctionne, cette horloge biologique? Quel est le rôle du cerveau? Que se passe-t-il?
Alors c'est quelque chose qu'on ne cesse de faire des découvertes sur le fonctionnement de ces horloges, parce que effectivement au départ on pensait qu'il y avait une horloge principale. On sait aujourd'hui qu'il y a une multiplicité d'horloges périphériques qui tournent autour de cette horloge principale, et que c'est évidemment la synchronisation entre toutes ces horloges qui permet que l'organisme fonctionne de la manière la plus cohérente possible. Alors l'horloge princeps que j'évoque là, c'est une horloge que l'on situe dans le cerveau au niveau du noyau suprachiasmatique. Mmh. Alors, le noyau suprachiasmatique, c'est le lieu de croisement, oui, des nerfs optiques. Hein, donc, les nerfs qui viennent des yeux, qui se croisent à cet endroit-là et qui donc sont très influencés par la luminosité, bien évidemment, puisque ça vient des yeux, ça passe par la rétine et l'influence de la luminosité rejaillit sur ce noyau.
Donc conséquence pour les personnes aveugles ou non-voyantes.
Justement, conséquence pour ces personnes-là, c'est le fait qu'on constate que beaucoup de ces personnes-là ont de gros troubles du sommeil et qu'il est nécessaire de leur trouver des substituts de la lumière pour leur permettre d'avoir une synchronisation, la synchronisation de leur horloge. Alors ça peut être des substituts en termes de bruit, en termes de température extérieure, etc. Mais c'est vraiment du substitut et c'est quelque chose qui perdure assez longtemps, ces troubles du sommeil. Mais chez les parents qui ont des enfants aveugles et qui n'ont pas connaissance de ces phénomènes-là, s'ils ne tombent pas sur le bon pédiatre pour leur expliquer les problèmes de leur enfant, c'est difficile à comprendre. Et finalement, on renvoie tout à la pathologie de l'enfant, alors qu'on peut très bien traiter ça autrement que en essayant de réduire les troubles du sommeil, etc., et en considérant que c'est lié uniquement au fait d'être handicapé. C'est bien le fait d'être aveugle qui provoque ce trouble-là, et pas le handicap en général. Et ce noyau suprachiasmatique est maintenant tout à fait bien connu du point de vue de l'organisation du fonctionnement de ces différentes horloges.
Et il y a quoi ? Il y a des molécules qui interviennent aussi ? Il y a des substances ?
Alors, il y a effectivement des substances. Alors, on peut parler par exemple des substances qu'on dit hypnogènes. C'est quelqu'un qui s'appelle Pierron, qui au début du XXe siècle a découvert ces substances hypnogènes. Il a découvert que dans la veille, plus on avait une activité importante et plus nous sécrétions ces substances pour lesquelles il était nécessaire d'avoir un temps de sommeil suffisant pour éliminer ces substances. Donc ça a été la bascule entre la veille et le sommeil. Que doit faire le sommeil par rapport à ce qui se fait au cours de la veille? Et donc c'est cette découverte de ces substances-là qui doivent être éliminées au cours du sommeil qui ont permis aussi de comprendre que le rythme veille-sommeil est plus complexe qu'on ne le pense a priori.
Et lorsque on est en état de décalage horaire, alors maintenant il faut dire jet lag, c'est beaucoup, oui, mieux paraît-il, regardez décalage horaire, que se passe-t-il?
Alors,
et comment le corps essaye de rééquilibrer?
Ce qui se passe, alors effectivement on parle de jet lag parce que ce sont des recherches qui ont été faites, c'est pas d'ailleurs les premières recherches qui ont été faites avec des personnels de l'aviation civile, mm-hmm, où on essayait de voir sur les hôtesses de l'air, les stewards, les pilotes, etc., les effets de ces changements de fuseau horaire réguliers, permanents, etc. Mais finalement ces effets-là ont d'abord été faits sur des personnels soumis au travail posté, qui ont exactement les mêmes perturbations que les pilotes d'avion qui subissent des changements de fuseau horaire.
Ce qu'on appelle le travail posté, c'est-à-dire au même poste?
C'est-à-dire le fait de travailler de nuit, principalement, ou alors d'avoir des variations de son poste de travail, par exemple sur 3x8, on est 8 jours la nuit, 8 jours de jour.
Comme à France Inter, nos techniciens qui font la nuit, le jour,
etc. Eux, c'est 24 heures sur 24, d'accord, sur un France, ouais, Inter, on est bien d'accord.
Oui, oui, absolument, mais il faut des gens derrière.
C'est même cas. Pas...
Merci à eux.
C'est même pas une variation du rythme circadien ou autre. Ouais. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est le fait que je viens de dire qu'on a une multiplicité d'horloges qui doivent fonctionner de manière synchronisée. Le problème de ce qu'on appelle la désynchronisation interne, c'est cette désynchronisation entre des horloges qui, en principe, doivent fonctionner en phase, qui finissent par ne plus fonctionner en phase parce qu'elles ont été modifiées dans leur périodicité, dans leur amplitude, etc., par le changement horaire qui leur a été imposé. Alors, c'est surtout le fait d'avoir découvert que ces différentes horloges ont des rapidités de resynchronisation qui sont différentes entre elles. Par exemple, si je ne m'intéresse qu'à l'horloge qui rythme le cycle veille-sommeil, c'est une horloge qui a besoin d'environ 48 heures pour se synchroniser avec un nouveau rythme extérieur.
Il n'y en a qu'une qui ne fait que ça. Sa fonction, c'est de rythmer
veille-sommeil. Hein, c'est cette horloge-là. Elle a besoin de 48 heures. L'horloge qui module le rythme de température centrale a besoin, elle, de 8 à 10 jours. Et les horloges qui modulent les systèmes hormonaux ont besoin, pour la plupart d'entre elles, de 2 à 3 semaines. Alors, que se passe-t-il dans ces 8 jours où on a changé d'horaire, on a décalé ses horaires ? Notre rythme veille-sommeil est arrivé au nouveau rythme. Disons, on part aux États-Unis. Nous arrivons aux États-Unis, en 48 heures, on a pris le rythme des Américains pour être éveillé et pour être endormi. Mais notre température centrale, elle n'a pas suivi. On en est donc à un point où nous sommes à un pic de température alors qu'on est endormi, au lieu d'avoir au contraire le creux de température pendant notre sommeil. Et à l'inverse, on est éveillé alors que notre température est plutôt basse. Et c'est cet effet de désynchronisation interne qui se répercute sur les dysfonctionnements qu'on constate. Et la désynchronisation interne est vraiment cet effet majeur de désynchronisation entre des horloges qui doivent rester en phase, qui doivent rester synchronisées.
Alors, nous ne sommes pas désynchronisés du tout. On vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, Claire Lecomte. Et on va d'abord s'offrir PJ Harvey et ensuite on écoutera un physicien très intéressant.
Une dizaine de jours sur un rythme long de 48 heures, c'est-à-dire qu'il s'écoule 48 heures entre deux réveils. Et actuellement, depuis une semaine, je l'ai déplacé en simulation.
Murder.
Eh bien, c'était Pete Gervais, donc sur France Inter, que programme très souvent l'ami Bernard Lenoir et que l'on retrouvera à Carhaix, les Vieilles Charrues, en Bretagne. Oui, oui, toute petite commune, plein de bénévoles. Alors là, il nous va avoir des décalages aussi parce que, oui, non, mais il bosse comme des fous pendant 18 heures, etc. Donc, voilà, il tire un petit peu sur la corde. On a des questions d'ailleurs en ce sens. Ce que je vous propose, donc toujours autour de la chronobiologie, c'est d'écouter un homme qui est Étienne Klein, que j'avais rencontré dans Tout s'explique, c'était en 2003, physicien au CEA, docteur en philosophie des sciences, et voici ce qu'il peut nous dire aussi sur le temps. Là, c'est quand même un peu différent, c'est le temps physique.
Il y a des processus biologiques, par exemple, qui ont des temporalités propres, de même pour les processus chimiques. Est-ce à dire qu'il faille inventer un temps biologique ou un temps chimique? Quand je regarde les équations qui décrivent l'évolution des systèmes chimiques, c'est le paramètre T de la physique. Autrement dit, ça n'est pas parce qu'il y a des processus chimiques qui se déroulent dans le temps qu'il y a un temps chimique particulier. Ouais. Et je pense que ce raisonnement-là, on peut aussi l'étendre au temps psychologique. Il est évident qu'il y a de la psychologie dans notre rapport au temps. Une heure vous semble durer 10 heures si vous vous ennuyez, et puis 10 minutes si vous êtes passionné. C'est banal de le dire, mais il y a une élasticité de notre perception du temps par rapport au temps physique. C'est bien pourquoi nous portons des montres, pour régulièrement recaler notre sensation du temps sur la réalité du temps qu'indique notre monde. C'est pour dire qu'à mon avis, il n'y a pas de temps psychologique. Par contre, il y a de la psychologie dans notre rapport au temps physique. Mais vous pourriez me dire, mais le temps physique, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi est-ce que vous le mettez en avant? Et pendant très longtemps, je ne l'ai pas mis en avant. Mais en travaillant un peu, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, le temps au XXe siècle est devenue la grande affaire de la physique.
Voilà, l'avantage avec Étienne Klein, c'est qu'il peut faire les questions, les réponses, parce qu'on ne pose même pas la question qu'il a envie qu'on lui pose. Mais c'est ça qui est bien. Non, mais c'est quelqu'un qui a énormément donc, travaillé sur le temps. On le sait, il a écrit, entre autres, les tactiques de Chronos, Le temps existe-t-il dans la collection Les petites pommes du savoir. Question tout à fait intéressante de Jean-Pierre. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, Arras, très jolie ville. La chronopsychobiologie à long terme, à l'échelle d'une vie. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que l'on vieillit Lorsque l'on vieillit, plus le temps passe vite. Étant enfant, on a tous le souvenir de moments où on s'ennuyait ferme pendant des heures entières, mais à un âge certain, le temps semble passer à toute vitesse. Une semaine ne représente qu'un temps infime. Est-ce que là, je ne sais pas si vous avez une réflexion plus qu'une réponse, peut-être sur ce...
Oh, c'est une réflexion, oui, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que, par exemple, j'entendais parler de temps psychologique. Je voudrais quand même rappeler les travaux de Paul Fraisse, hein, qui était un psychologue expérimentaliste, qui lui aussi était féru de philosophie, de physiologie, parce que à l'époque où Paul Fraisse a démarré ses études, on faisait un peu tout, de la philosophie, de la biologie, de la physiologie. Donc il était passé par un physiologiste à Bruxelles avant d'ouvrir son labo de psycho-expérimental à Paris. Et c'est lui d'ailleurs qui est l'inventeur du terme chronopsychologie. C'est lui qui a inventé ce terme-là pour expliquer l'idée que peut-être que certaines de nos activités psychologiques ont elles aussi des rythmes qu'il faudrait essayer de mettre en évidence, même si elles sont a priori déterminées par le biologique. Mais c'était son idée sur laquelle beaucoup ont travaillé par la suite. Mais ce qu'a surtout démontré Paul Fraisse dans ses tout premiers travaux, c'est le fait que chacun d'entre nous possède très précocement, quelques mois après la naissance, ce qu'on appelle son tempo individuel. C'est-à-dire que c'est un rythme qui nous est propre, un tempo qui fait que quand on arrive à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc., lorsqu'on demande à un enfant de répéter un rythme qui lui est donné, il le répétera plus ou moins bien en fonction de son propre tempo. Mais donc c'est quelque chose qui apparaît vraiment très très précocement. C'est ce qui l'a amené à parler de temps psychologique justement, puisque ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est complètement lié aux fonctions cognitives. Et effectivement, il a montré que par exemple, plus une tâche est morcelée et plus on a la possibilité de voir qu'elle se déroule dans le temps, et donc plus elle nous paraît longue. plus au contraire elle est liée dans le temps et plus elle paraît courte. Montrer aussi que plus le temps pendant lequel on fait quelque chose est occupé parce qu'on est en train de découvrir quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau, et plus ce temps paraîtra long parce qu'il y a tout ce temps de la découverte qui se fait. Alors que quand on est dans un temps où on sait déjà tout et qu'on ne fait qu'appliquer, le temps paraît beaucoup plus court.
Écoutez, moi j'ai une bonne nouvelle, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, tout va bien. Je ne me suis pas rendu compte, je regarde l'heure quand même parce qu'on a la pendule sous les yeux en permanence. Et on va quand même aborder là un thème qui vous est extrêmement cher parce que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer lors d'une soirée qui était organisée par la mairie de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine. C'était « Quel rythme pour nos enfants ?». Alors là, vous travaillez énormément sur ce thème-là, sur peut-être, je ne sais pas s'il faut dire le rythme scolaire ou bien le temps scolaire, mais où en est-on aujourd'hui ? Ce qui va nous amener aussi donc à parler des fameuses semaines de 4 jours, etc. Bon, alors, quelques réflexions déjà de départ, parce que là, nous avons donc sûrement des mamans et des papas qui ont des enfants et qui, peut-être, ils voient leurs enfants qui fonctionnent pas forcément très très bien. Alors, est-ce que c'est le sommeil ? Est-ce que c'est la suractivité ? Est-ce que c'est... Où en est-on de ce problème ?
Bon, alors effectivement, moi, j'évite toujours de parler de rythme scolaire parce que sur le plan scientifique, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer auparavant, on voit bien que le rythme scolaire n'a pas grand sens. Il a d'autant moins de sens pour moi que le fait d'associer scolaire à rythme semblerait faire penser qu'on ne parle que de l'école et que du temps passé à l'école.
Alors, qu'est-ce que ça représente, en fait, quand on regarde sur la vie d'un enfant ? Ce fameux
très,
temps de...
Très peu. Ça représente le temps passé en classe. Donc, si je prends le temps strictement scolaire, les 864 heures de temps passé en classe, c'est 10% du temps de vie de l'enfant. Ah. 10% du temps de vie. C'est rien. Oui. C'est peanuts. Et ça donne l'impression d'occuper tout le temps.
Bah, c'est-à-dire que l'organisation se fait autour de cela.
Voilà. Toute l'organisation se fait autour de cela. Mais comme en plus, cela est très mal organisé...
Oui.
Tout est désorganisé, finalement. Donc, forcément, on arrive à quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Dans le cela, on met quoi ? Le périscolaire ?
Alors, dans le cela, ben, le scolaire où on est en classe. Puis, il y a effectivement le périscolaire quand on arrive plus tôt qu'on ouvre l'école, qu'on mange sur place à la cantine, qu'on repart un peu plus tard qu'à la fin de l'école, etc. Et puis, il y a tous les temps, les temps extrascolaires qui sont les temps entre deux, entre les jours de classe, etc., qui sont occupés de façon plus ou moins identique chez les enfants, mais aussi plus ou moins chargés selon les enfants. Et parfois, on se rend compte que ce sont des enfants qui ont des journées très pleines quand ils sont à l'école, mais aussi très pleines quand ils sont en dehors de l'école. Et on s'étonne d'avoir des enfants fatigués, alors que c'est vraiment lié au fait qu'ils sont en permanence en suractivité, mais qui plus est, avec des temps qui n'ont pas de cohérence entre eux. Donc je crois que c'est ça aussi qui fait que les enfants, en tout cas que certains enfants dysfonctionnent aussi mal, c'est le fait qu'il n'y a vraiment aucune cohérence entre les temps qu'ils passent pendant qu'ils sont en classe, pendant qu'ils sont hors classe, pendant qu'ils sont dans la famille, pendant qu'ils sont en extrascolaire, etc. Alors qu'un enfant qui est en train de grandir, qui est donc en train de se construire par rapport au temps, a besoin véritablement de se repérer dans le temps et donc d'avoir un lien, une cohérence entre les différents.
Alors Claire Lecomte, comme vous avez travaillé sur ce sujet à Lille entre autres, racontez-nous l'expérience que vous avez donc menée. C'est une expérience qui a pris, on va dire, le contre-pied de ce qui se passait traditionnellement.
Qui a totalement pris le contre-pied. C'est une expérience qui s'est faite en 95-96, à l'époque qui correspondait à ce qu'on a appelé la mise en place des sites pilotes. Alors les sites pilotes, c'était, bon, pour un petit rappel politique, c'est Chirac qui, dans sa campagne présidentielle de 95, avait mis les rythmes scolaires au centre de ses préoccupations, avait donc décidé de nommer Guy Drut comme ministre à la jeunesse et au sport à l'époque. François Bayrou était à l'Éducation nationale et donc c'est ce duo qui était chargé de s'occuper des aménagements des rythmes scolaires. Ça s'est appelé aménagement des rythmes scolaires, ARS. Il y a donc eu des appels à projets de la part du ministère Jeunesse et Sport sur l'ensemble du territoire qui voulait essayer d'aménager autrement les temps scolaires des écoles. Et ça faisait suite à des constats qu'on faisait depuis quelques années, que des dérogations avaient été données à pas mal de communes qui avaient inventé la semaine de 4 jours pour pouvoir libérer les week-ends pour toutes ces familles qui partent en week-end, en particulier la ville de Lyon, qu'il avait fait pour tous ceux qui partaient sur les pistes de ski à l'époque pendant le week-end.
Certains petits lobbying,
je dirais, parce qu'à l'heure actuelle, l'enquête qui s'est faite l'année dernière a montré qu'il y a 8% des parents qui partent au ski. Donc voilà, ça correspond à ce petit lobbying-là, mais qui visiblement
est efficace.
Beaucoup de pression, il marche plutôt bien. Donc c'était pour prendre le contre-pied de ces semaines de 4 jours. Et dans l'appel à projet, il était clairement dit que les projets devaient faire en sorte que l'école devait être allée sur au moins 5 jours. Et ça, c'était intéressant, puisque le au moins 5 jours permettait pas mal de liberté. Et le groupe scolaire auquel je fais souvent référence, qui est le groupe scolaire du Ruy de Lille, a décidé de prendre au pied de la lettre le au moins 5 jours et a décidé de mettre en place une semaine de 6 jours pour l'école, partant de l'idée que les enfants qu'ils avaient en classe étaient des enfants d'abord très fatigués, mais surtout, ils avaient remarqué un absentéisme de plus en plus fréquent le jeudi matin, lié d'après eux au fait que comme le mercredi est férié, le jeudi, on oublie de mettre son réveil et étant donné la paupérisation des familles qui allaient dans cette école, le papa chômeur, la maman ne travaillant pas, personne d'autre que l'enfant ne se levait pour aller à l'école. L'idée de ce groupe scolaire et en particulier de l'équipe pédagogique, ça a été c'est nous qui devons rythmer la vie de ces enfants-là. Et pour rythmer la vie de ces enfants, on ouvrira l'école tous les matins. Et donc, ils viendront à l'école tous les matins, hormis le dimanche.
Ça fonctionne. Oui, s'il vous plaît, pas dimanche, peut-être quand même. Ça a fonctionné. Quels ont été les résultats?
Ça a fonctionné jusqu'en 2008, puisque malheureusement, en 2008, le ministre d'Éducation nationale de l'époque, Xavier Darcos, a décidé, sans concertation, d'éliminer pour tous le samedi matin. Je pense qu'au mieux, on aurait quand même pu dire que, par dérogation, ceux qui voulaient garder le samedi matin auraient pu le faire. Mais non, ça a été élimination.
Ça s'est fait vraiment sans concertation.
Ah oui, sans concertation. Oui. Parce que beaucoup de conseils d'école ont découvert au mois de juin qu'ils devaient aménager la rentrée en fonction d'une disparition du samedi matin. Je ne dis pas que ça n'a pas été annoncé. Hein. Je rappelle quand même que Sarkozy l'avait annoncé lui aussi dans sa campagne présidentielle. Il rendrait le week-end aux familles. Le problème est que rendre le week-end aux familles concerne à nouveau les familles qui peuvent utiliser leur week-end à occuper correctement leurs enfants, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles, et oublient, là aussi, une partie non négligeable des salariés. Et ça, c'est une enquête de 2008 qui a montré que 50% des salariés travaillent le samedi. Donc, rendre le week-end aux familles, ça veut dire le rendre à 50% des salariés qui ne travaillent pas le samedi.
Alors maintenant, qu'est-ce que vous constatez d'un point de vue donc, chronobiologique par rapport donc, aux enfants, par rapport donc, à cette semaine de 4 jours, 4 jours et demi, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, j'ai envie de dire que, principalement par rapport à cette fameuse semaine de 6 jours, ce qu'on a constaté relativement rapidement, c'est effectivement une régularisation qui s'est faite dans le rythme veille-sommeil des enfants qui venaient à l'école. On doit se lever tous les matins à la même heure, donc on se couche tous les soirs à la même heure, parce que c'est régulier, c'est une évidence. Mais comme on avait diminué le temps d'apprentissage chaque jour, forcément, puisqu'on l'étalait beaucoup plus dans la semaine, on a constaté aussi une beaucoup plus grande disponibilité des enfants pendant les temps d'apprentissage et une bien moins grande fatigue intellectuelle. Je ne parle pas de fatigue physique parce que comme ils avaient des activités les après-midi, dont des activités sportives comme du kayak par exemple quand il fait beau, etc., ils avaient ce qu'on appelle une saine fatigue qui finalement les amenait à bien dormir. Et donc un sommeil de bonne qualité, un rythme veille-sommeil régulier, une grande disponibilité par les apprentissages. Effectivement, les résultats ont montré que c'était exactement ce qu'il fallait à ces enfants-là pour qu'ils vivent mieux l'école et qu'ils aillent mieux à l'école. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, et là je parlerai de tous les enfants, quels que soient les milieux sociaux concernés. Parce qu'on pense souvent que les dérèglements au niveau du rythme veille-sommeil ne sont le fait que des familles pas très attentives à une hygiène de vie chez leurs enfants et les couchant tard le soir quand il n'y a pas classe.
Parce qu'on regarde la télé.
Ça concerne tout le monde. Parce que quand on part en week-end, je peux vous donner l'exemple des Lyonnais par exemple, hein, qui effectivement partaient en week-end sur les pistes de ski et qui assez rapidement...
Une fois de plus, ce n'est pas tous les Lyonnais. Hein, c'est pour éviter d'avoir 50 mails pour dire attendez, nous partons en piste de ski. Voilà,
de ceux des Lyonnais qui... Voilà. À l'époque où ils ont eu les week-ends libérés, il y en a eu, parce qu'il y a des enseignants qui s'en sont plaints, ont décidé de partir le vendredi midi pour éviter les bouchons du vendredi soir sur la route pour pouvoir aller au ski. Donc on a quand même des enfants qui partaient le vendredi midi, qui le lundi récupéraient du week-end de ski, qui n'étaient pas particulièrement en forme à l'école. Bien évidemment, ça n'est pas tous les Lyonnais, ça n'est pas toutes ces familles-là. Il y a des familles qui sont très attentives à ça. Mais je crois qu'on a quand même une responsabilité à faire en sorte que les temps soient organisés de telle manière qu'on prenne en considération les besoins de tous ces enfants et de l'ensemble des enfants.
Merci, Claire Lecomte. On va poursuivre ce voyage. Je vous propose de parler trop vite. On s'était dit en v'là du rock, en v'là. Non, mais on a quelque chose de très, très bien. Pour les battements de cœur, c'est pas mal non plus. Vous le connaissez, c'est Michel, oui. Avec un J, allez, vous y êtes.
En v'là du slow, en v'là, et c'est du bon, croyez-moi. Ta témoin, c'est l'arme ici, touchez-moi ça. Les violons qui font pleurer sont déjà là. En v'là du slow, en v'là, commencez les cinémas. C'est bien agréable ici, c'est mieux chez moi. Attendons qu'un slow commence, et ben voilà.
Guitare.
Ça, on se tient à deux tellement serrés qu'on pourrait plus s'arrêter là. Alors ça continue des fois. En v'là du slow, en v'là, tous tes doigts entre ses doigts. Des vieux souvenirs sont ici, du sol au pas.
Voilà, sur un petit rythme de manège, la fin est toujours délicieuse. Michel Jonas, vous le savez, en v'là du slow, en v'là. Violaine est enseignante, elle a lu des articles sur les pics de vigilance ou de non-vigilance qui étaient assez précis au cours de la journée, mais elle ne sait pas de quelle heure il s'agit. Est-ce que vous avez des informations quand on parle de cela?
Oui, alors je peux parler des pics de vigilance ou des non-pics de vigilance. Je voudrais dire deux choses par rapport à cela. Il est un pic de vigilance ou de non-vigilance plus exactement, qui nous concerne tous. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la pause méridienne, c'est-à-dire que c'est ce moment de début d'après-midi qui correspond à un creux de vigilance physiologique qui fait que, pour certains, on est proche de la somnolence.
Alors on met ça sur le compte de la digestion?
Ça n'est pas lié à la digestion, puisque même quand on ne mange pas, on connaît
on l'a quand
cette
même.
Pause méridienne, ce creux méridien.
Bon.
Alors en fait, l'hypothèse serait, c'est le fait de quelqu'un qui s'appelle Kleitman, qui dans les années 50 a montré que nous avions un sommeil qui se régule autour d'une série de cycles d'environ 90 minutes et qui en fait perdurerait dans la journée. Qu'il y aurait une continuation de cette rythmicité qu'il appelle le Basic Rest Activity Cycle, c'est-à-dire le cycle de base, qui perdurerait au cours de la journée, qui ferait apparaître effectivement toutes les 90 minutes des petites baisses d'attention, des petites baisses de vigilance, mais surtout qui ferait que l'on a en début d'après-midi, c'est pour ça qu'on l'appelle le méridien, c'est-à-dire au milieu du rythme circadien, un vrai creux de vigilance qu'il faudrait pouvoir préserver le mieux possible. Alors quand je dis préserver le mieux possible, c'est faire en sorte que l'enfant soit dans une situation qui ne nécessite pas de sa part une activité nécessitant un coût cognitif important, qui n'est pas que les mathématiques et le français, contrairement à ce que l'on pense. Dire que toute activité qui nécessite que l'on dise à l'enfant de bien faire attention et de bien se concentrer, C'est une activité qui est coûteuse sur le plan cognitif, y compris la peinture sur soie. Quand on lui demande de faire attention à la peinture parce que ça coûte cher, de faire attention à la soie pour ne pas l'abîmer, etc., il fait attention. À partir de là, c'est coûteux. Et donc, il va devoir user beaucoup de ressources énergétiques. Évitons de le faire à ce moment-là où les ressources sont au plus bas. Donc, c'est ce creux-là qui est à préserver. Par ailleurs, je vois ce que la collègue enseignante a lu. On a souvent dit qu'il y avait des pics de vigilance qui faisaient que, dans la matinée, une augmentation de la tension se fait. Le creux en début d'après-midi, une reprise en milieu d'après-midi. Premièrement, la reprise de milieu d'après-midi n'est réelle que chez les enfants les plus grands, pas chez les plus petits. Elle n'est vraie que si vraiment on a aménagé ce creux, comme je viens de l'évoquer. Et pour ce qui concerne la matinée, on a constaté quand même qu'un enfant qui a un sommeil de qualité, qui a pris un petit déjeuner le matin, qui fait des activités qui sont en alternance plus ou moins coûteuses, et ça c'est à l'enseignant de l'organiser, il est tout à fait capable d'avoir un maintien de concentration et d'attention pendant 4 heures dans la matinée sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment un aménagement des temps qui peut se faire.
Quelques mots sur nos chers adolescents.
Alors, nos chers adolescents, effectivement, qui estiment que parce qu'ils sont grands, ils doivent plus se coucher comme les petits, etc., je voudrais quand même leur dire quelques petites choses. C'est que
ils ne vous écoutent pas. Mais c'est pas grave, les parents nous écoutent peut-être.
Les parents, ils leur répercuteront. Et puis, il y a peut-être des ados, qui sont même en classe branchés sur je ne sais quoi.
Exactement,
ça peut
ils
arriver.
Écoutent, bien sûr. En
forcément sur France Inter, voilà. C'est évident.
Se faire cliquer sur Walkman.
Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on constate quand même à l'heure actuelle une perte de sommeil vrai de 2 heures sur les 20 dernières années, 15-20 dernières années, chez les adolescents d'aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas comme ça perdre 2 heures de sommeil et dire qu'on est toujours aussi en forme.
C'est énorme comme chiffre.
C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est énorme, mais c'est une réalité. Ce sont des enquêtes qui sont faites et qui ne sont pas propres à la France. Ça, je le dis, on les a retrouvées au Japon, on les a retrouvées en Suisse, on les a retrouvées, c'est international, c'est un petit peu partout, mais c'est tout à fait énorme. L'autre problème des adolescents aussi, c'est qu'ils estiment devoir se coucher plus tard. Alors, il y a eu une médiatisation de certaines données que je ne conteste pas. Effectivement, chez l'adolescent, au moment de la puberté, on se rend compte qu'il y a une espèce de retardement de la phase de sommeil qui fait que le pic de mélatonine, alors je dis 2 mots sur cette mélatonine.
S'il vous plaît.
La mélatonine est une substance qui est sécrétée par l'épiphyse, par la glande pinéale, qui en fait a besoin dans la journée de beaucoup de luminosité pour pouvoir être sécrétée la nuit. Donc plus on profite de la luminosité le jour et plus on sécrétera de mélatonine la nuit, de meilleure qualité sera notre sommeil, bien évidemment, puisque c'est complètement lié. Le problème étant que quand je dis plus de luminosité dans la journée, c'est bien dans la journée. Le problème de nos adolescents est qu'il n'est pas rare qu'ils aient beaucoup de luminosité le soir, parce qu'ils sont plantés devant leurs écrans, qui renvoient des flashs lumineux importants. Et je rappelle que c'est le noyau suprachiasmatique derrière la rétine qui reçoit tout ça.
Et s'ils sortent en boîte, ce n'est pas la même lumière non plus.
C'est une lumière, mais ce sont les flashs lumineux surtout, qui sont assez forts et qui finalement le maintiennent éveillé en permanence. C'est pour ça qu'ils ont l'impression de ne pas avoir sommeil, parce que ça les maintient éveillés. Le problème étant que ça a retardé d'autant la sécrétion de la mélatonine qui sera nécessaire pour le sommeil. Donc, ils finissent par avoir une vraie désynchronisation, une réelle désynchronisation qui est évidemment perturbatrice dans toutes leurs activités.
Qu'est-ce qui reste à découvrir ? Je vous fais ça en 45 secondes à peu près. Qu'est-ce qui reste à découvrir dans ce domaine ? On est encore à l'aube de quelque chose, parce qu'on dit très souvent que la médecine de demain sera cérébrale. Il y a encore énormément de champs d'investigation.
Je pense que oui, parce que actuellement, c'est vraiment la recherche génétique qui se développe énormément dans ce cadre-là. Jusqu'à présent, elle s'est beaucoup faite sur les végétaux et sur les animaux. C'est beaucoup plus complexe chez l'humain parce qu'on a des lois de bioéthique à respecter, ce qui complexifie forcément la recherche dans ce cadre-là et dans ce domaine-là. Mais c'est en train de poindre, c'est en train de se faire. Bon, j'ai découvert tout récemment un chercheur qui m'a parlé de ces travaux que j'ignorais complètement, qui s'appelle James Bendayan, et qui, lui, commence à véritablement travailler sur le génome humain et qui montre même qu'il y aurait des différences entre les femmes et les hommes par rapport à leur rythmicité en fonction du génome, justement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est d'avenir et qui va se développer probablement. dans les années qui viennent.
Eh bien, un grand merci à vous, Claire Lecomte, pour toutes ces explications. Vous dire, d'abord, remercier Dimitri Gronoff, Fabien Laléouz à la technique, Séverine Bouvard, Jean-Christophe Pinaza, Marie Guérin qui a réalisé l'émission. Denis Chessou, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, donc à partir de 14h. Et là, on parlera d'archéozoologie. On passera de la licorne jusqu'au narval. Vous verrez, c'est aussi tout à fait intéressant. Dans quelques instants, là aussi passionnant, Mermet, là-bas si j'y suis, France Inter, il est 15h.